également parler de médecine de précision
à propos des nouvelles immunothérapies et des thérapies ciblées des tumeurs solides, de leurs biotests compagnons et des seuils définis ou pas pour l'éligibilité des patients au traitement. Je vais d'abord déclarer que je n'ai aucun lien d'intérêt avec les firmes qui produisent ou commercialisent des produits de santé depuis plus de 16 ans. Je suis membre du groupe Princesse et de l'association Formadep. Proposer à chaque patient un traitement et un suivi personnalisé en fonction de la carte d'identité moléculaire de sa tumeur, tel est l'objectif de la médecine de précision. Des biomarqueurs
peuvent être associés,
mais pas systématiquement à ces traitements. Ils permettent alors de tester les patients afin d'identifier ceux qui sont bons répondeurs ou non porteurs d'une altération moléculaire. L'immunothérapie est une nouvelle approche thérapeutique dont l'objectif est de restaurer le système immunitaire des patients afin qu'ils se chargent de détruire les cellules cancéreuses. Ces traitements sont très efficaces, mais chez une minorité de patients, il s'agit d'abord de pouvoir identifier à l'avance quel patient doit répondre afin d'éviter d'initier un traitement qui sera inefficace chez certains. Ces éléments de contexte sont extraits d'une part d'un numéro spécial du journal de l'Institut Curie, médecine de précision de la recherche au traitement, et d'un document qui est téléchargeable sur le site de l'INCa, thérapie ciblée dans le traitement du cancer en 2015, état des lieux et enjeux, appui à la décision. L'objectif du travail que je vais vous présenter, qui est un réel travail de recherche, était de déterminer si les tests d'immunohistochimie associés aux immunothérapies du cancer et les biomarqueurs associés aux thérapies ciblées, c'est pas tout à fait la même chose, ainsi que leurs éventuels seuils d'éligibilité au traitement permettent réellement de ne sélectionner que les patients bons répondeurs, évitant ainsi de traiter inutilement ceux chez lesquels ils seront inefficaces. Alors, je me suis intéressé à trois nouvelles immunothérapies anti-PD1, PDL1, c'est-à-dire le pembrolizumab, qui est le Keytruda des laboratoires MSD, le nivolumab, le Opdivo des laboratoires BMS, l'atezolizumab, le Tecentriq de laboratoire Roche, l'association du nivolumab avec l'ipilimumab, le Yervoy de BMS, ainsi que deux nouvelles thérapies ciblées, l'osimertinib, qui est le Tagrisso des laboratoires AstraZeneca, et le cabozantinib, le Cabometyx d'Ipsen Pharma. Je me suis intéressé à ces médicaments dans quatre localisations du cancer, le cancer bronchique non petite cellule, le mélanome malin, le carcinome rénal, le cancer de la tête et du cou, en première ou en deuxième ligne. Les taux de survie globale publiés dans les essais pivots avec comparateur actif aux différentes durées de suivi, le cas échéant selon le score de proportion tumorale, par exemple le pourcentage de cellules tumorales exprimant PD1 ou PDL1, ont été systématiquement recherchés dans les articles et surtout dans les suppléments afin de calculer les nombres de patients à traiter et les coûts supplémentaires par décès évités par rapport aux comparateurs. J'ai analysé 11 essais comparatifs pivots. Les gains absolus de survie sont compris entre 9% et 19% à 1 an de suivi, entre 7% et 14% à 18 mois, entre 12% et 17% à 2 ans. Ce gain absolu de survie est de 6% pour le nivolumab associé à l'ipilimumab versus nivolumab seul et de 24%, c'est vous dire, par rapport à l'ipilimumab seul, son inefficacité à 3 ans de suivi. Les nombres de patients à traiter pour éviter un décès à 6, 12, 18, 24, 36 mois de suivi par rapport au comparateur actif varient entre 6 et 17. Alors, s'il y a deux chiffres à retenir, c'est cela. 83% à 94% des patients traités dans des essais pivots ne bénéficient d'aucun allongement de leur vie. Les coûts supplémentaires pour éviter un décès dans les groupes traités par immunothérapie ou thérapie ciblée par rapport au comparateur s'échelonnent entre 340 000 et 832 000 euros à un an de suivi, entre 385 000 et 687 000 euros à 18 mois de suivi, entre 700 000 et 800 000 euros à 24 et 36 mois de suivi. L'atezolizumab étant encore aujourd'hui sous le régime de post-ATU en négociation de prix, il n'a pas été possible de calculer le coût supplémentaire par rapport au comparateur de cet accès. Alors je passe très rapidement, vous avez sur le poster tout ça, j'en reviendrai juste sur une diapo. Quelques secondes. La publication bien trop rare est souvent enfouie dans les suppléments aux articles parus dans les grandes revues médicales de résultats stratifiés en sous-groupes selon le score de proportion tumorale. Elle montre à l'évidence une relation linéaire entre l'expression tumorale et l'efficacité clinique jugée sur la survie globale. ou à défaut avec le taux de réponse objective ou la survie sans progression. Par exemple, et là je vais revenir deux secondes sur cette diapo-là, on ne voit pas grand-chose malheureusement, simplement pour vous dire si ici c'est une des rares études où on a eu accès aux résultats en fonction du score de proportion tumorale. Et donc vous voyez pour ce médicament, en bas, on a les données pour l'ensemble de la population qui était inclue dans l'essai. Il faut 7 ou 8 patients à 12 et 18 mois pour éviter un essai. C'est-à-dire qu'on va traiter 6 patients sur 7 ou 7 patients sur 8 inutilement. Si on prend les patients mauvais répondeurs, ceux qui ont moins de 1% des cellules tumorales qui expriment le gène PDN1, il n'y en a pas peu, hein. C'est 42 à 47% des deux groupes, eh bien on monte à 9 patients à 12 et 18 mois, c'est-à-dire qu'il faut traiter 8 patients inutilement pour avoir un survivant supplémentaire par rapport au groupe de contrôle qui avait du dossier d'accès. Si on prend ceux qui ont plus de 50% des cellules tumorales qui expriment le gène, on monte à 3. C'est-à-dire qu'on traite 2 patients inutilement sur 3. C'est encore beaucoup à mon goût. Ça, c'est quand on a un seuil. À ma connaissance, il y a un seul médicament dans une seule indication qui est le cancer bronchique en première ligne. C'est le Keytruda, donc le pembrolizumab. Il faut savoir que le seuil qui a été défini est celui que proposait le laboratoire. Alors, il n'a pas été discuté. On s'est arrêté à 50% des cellules tumorales exprimant le gène pour que le patient soit éligible au traitement. Et dans ces conditions, il faut traiter 6 patients pour éviter un décès à 12 et 18 mois de suivi. C'est-à-dire qu'il y en a 5 sur 6 qui sont traités inutilement et à un coût exorbitant, bien sûr. Alors, ce qui est intéressant, c'est que malheureusement, la plupart de ces médicaments, il n'y a même pas de seuil qui a été défini. Hein? Et alors, par exemple, le Keytruda, hein, dont je viens de parler, en deuxième ligne, il n'y a pas besoin de seuil. Tous les patients sont éligibles. Non, Omar, je termine parce que le plus important, c'est là. On a les preuves qu'on pouvait faire mieux. On a les preuves qu'on pouvait faire mieux. Et on n'a pas fait mieux. En bas, vous avez les patients qui ont moins de 1%, moins de 5%, moins de 10% de cellules tumorales qui expriment le gène. Ces patients, il est clair qu'ils n'ont aucun bénéfice sur les courbes de Kaplan-Meier. Ces données sont dans le supplément de l'article. Bien sûr, il faut les enfouir pour que peu de gens les voient. Pour le Keytruda, j'ai la même chose dans l'étude Keynote. C'est des rares résultats pour le Keytruda où on a... Alors, vous voyez ici, ce n'est pas de la survie globale, c'est de la réponse objective. Ce taux de réponse objective, il est de 8% quand on a moins de 1%, de 13% quand on est entre 1 et 24, de 19% quand on est entre 25 et 49, on monte péniblement à 30% à peine quand on est entre 50 et 74, et on est à 45% quand on est entre 75 et 100. J'aimerais savoir à 80, à 90, à 95 où on est. Est-ce que ce n'est pas là qu'il faudrait lancer le curseur pour ne pas traiter inutilement de nombreux patients à des coûts exorbitants. En conclusion, l'absence de seuil, ou lorsqu'il existe des seuils d'expression génomique bien trop bas pour définir la pertinence et efficience et l'éligibilité au traitement, profite principalement aux firmes pharmaceutiques et très peu aux patients. Beaucoup trop nombreux à être traités inutilement sans bénéfice de survie prolongée. Si rien n'est fait pour combler ces failles, les coûts exorbitants de ces traitements inutiles menaceront rapidement notre système solidaire d'assurance maladie. Il est urgent de définir avec des anatomopathologistes, des biologistes moléculaires et des oncologues cliniciens sans lien d'intérêt avec les firmes pharmaceutiques des seuils d'éligibilité plus robustes. J'ajoute, et je termine avec ça, bien sûr, il est extrêmement important que les patients soient au courant. Et j'aimerais entendre les oncologues dire à leurs patients, vous savez, avec le Keytruda, en première ligne, tout compte fait, vous n'avez pas plus de chances d'obtenir un sursis de 12, 18 mois, on ne sait pas exactement, que de faire un 6 en lançant un D. J'aimerais que les oncologues le disent, je ne suis pas certain qu'ils le fassent. Et en tout cas, c'est nullement dans le RCP, ces chiffres que je vous ai donnés ne sont pas dans le RCP, ne sont pas dans les avis de la commission de la transparence. Donc les patients ne savent pas ça. Okay.
Merci. Voilà.